Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Jean-Yves Rezeau. Le Castor Astral 1975-2015, 40 ans d'édition, 1000 titres, 400 auteurs, un prix Nobel, littérature, musique, etc. Alors Jean-Yves Rezeau, je sais bien qu'on vous l'a posé un millier de fois cette question-là, mais d'où vient-il ce Castor Astral avec ce nom à la fois stellaire et très à terre pour la bestiole en question.
Bah le nom, il vient effectivement. On était dans les airs quand on a trouvé le nom. On était en avion entre Montréal et Paris. Il y a 40 ans, on était jeune étudiant en carrière du livre à Bordeaux. On faisait un stage en édition et en librairie, Marc et moi, à Montréal et
Marc,
à Québec. Marc Toralba. En vitrine des librairies au Québec, on voit essentiellement des livres de petits éditeurs indépendants, parce qu'à l'époque, le phénomène petit éditeur en France, c'était les débuts d'édition indépendante et du phénomène de la petite édition. Tandis que là, on voyait essentiellement des livres de petits éditeurs et qui avaient des noms très bizarres. Ils s'appelaient L'Obscène Nyctalope, Les Herbes Rouges, etc. Et essentiellement de la poésie. Et avec Marc, on s'est dit, waouh, quand on revient en France, on prend un nom bizarre et on publie que ce qui nous plaît. Et dans l'avion, on a choisi chacun un mot et c'était Castor Astral.
Et le vôtre, c'était lequel ?
Moi, c'était Castor.
Et pourquoi le Castor ?
Parce qu'on revenait du Québec et voilà, donc j'avais vu des castors.
Rien à voir avec Simone de Beauvoir, alors ?
Absolument pas.
40 ans, ça fait beaucoup. 1000 titres, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est lequel qui a passé le cap?
C'était dur de choisir le millième.
Pour pas se fâcher avec les contemporains.
Pour pas se fâcher avec les contemporains. Bon, c'est quand même un contemporain. C'est Jean-Marie Gouriot. On voulait à la fois que ce soit de la poésie, mais que ce soit un livre accessible aussi à tout public et assez drôle, c'est quelqu'un. Donc c'est lui qui est le millième. Donc un livre avec une couverture assez spéciale le lecteur passe son doigt et enlève un trèfle à quatre feuilles. Il y a les nervures du trèfle qui sont gravées sur le rabat de la couverture. Voilà, on aime bien s'amuser avec les livres.
Et ça dit bien aussi, Jean-Yves Rezeau, que c'est une belle histoire de chance aussi. Souvent, on entend les pleureuses quand il s'agit de petites éditions. Avec vous, c'est très florissant et c'est beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup de rencontres et beaucoup de succès aussi.
Il faut quand même s'accrocher quand on est petit éditeur, hein. C'est jamais gagné, surtout dans le contexte actuel. Mais bon, oui, le succès, c'est d'avoir duré, surtout 40 ans. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on a fait 1000 livres. Après, on fait une anthologie de poésie, il y a 101 poètes dedans et encore, on en a oublié. Enfin, pas oublié, mais on n'a pas pu tous les mettre. Hein. Donc oui, à un moment, ça fait masse et on se rend compte, oui, qu'on se retourne un petit peu. On se dit, ah oui, quand même. Voilà, donc c'est une longue aventure déjà.
Et l'anthologie qui paraît là justement pour célébrer ses 40 ans d'édition du Castor Astral a un très beau titre, ce qui est écrit change à chaque instant. 40 ans d'édition, 101 poètes, anthologie donc avec du contemporain en veux-tu en voilà, du plus ancien mais pas beaucoup, et pas mal de traductions aussi, à commencer par l'emblème puisque ce titre est emprunté à Thomas Tranströmer.
Voilà, bah évidemment c'est l'auteur phare de la maison puisqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 2011. Donc pour nous ça a été là évidemment un événement important parce qu'on a publié ses œuvres complètes dès la fin des années 80. Bon, il vient de mourir il y a quelques semaines, hein, donc on est un petit peu triste et c'est en grande partie pour ça qu'on a choisi un vers de lui comme titre du livre.
Comment ça se fait une rencontre pareille ? Via le traducteur Jacques Coutin ? Comment tout d'un coup on a à son catalogue cet homme-là, ce Suédois de si loin et qui tout d'un coup va devenir très célèbre en tout cas, qui va avoir la pleine lumière et c'est très beau qu'on cite le Castor Astral à tout bout de champ tout d'un coup parce que le prix Nobel est là.
Bah, ça remonte aux années 80, effectivement, c'est Jacques Coutin qui est son traducteur. On avait publié une anthologie de poésie suédoise contemporaine de lui, où ne figurait pas Tranströmer, parce que c'était une génération plus jeune que lui qui était dans cette anthologie. C'est lui qui m'a fait découvrir Tranströmer. Il m'a dit, il faut absolument traduire Tranströmer en français. Il est déjà traduit dans plusieurs dizaines de langues. Et c'était un choc pour moi quand je suis tombé sur cette poésie. Et j'ai dit, oui, il faut absolument publier. Donc on a commencé à faire une petite anthologie de lui, qui a été très bien accueillie, puisqu'on l'a quand même réimprimé à l'époque. Et il y a eu beaucoup de presse. Hein. Je suis retombé sur les articles, j'étais même surpris. Et puis, il y a eu le prix Nobel de littérature. Et donc là, évidemment, on est obligé de le réimprimer, etc.
Ce goût pour les poètes contemporains et jeunes, ça vous vient de cette aventure enclenchée dès l'adolescence? Parce que là, par exemple, vous dites Jean-Yves Rezeau, ça nous importait de faire une anthologie de poètes suédois, mais on prenait la dernière génération. Enfin, comment on fait aussi ce choix-là lorsqu'on est éditeur et éditeur fondu de poésie depuis toujours, à la fois d'avoir du patrimonial et aussi de faire découvrir les plus jeunes générations et de par le monde. Vous êtes surtout ciblé sur la France, bien sûr, le Québec, le Canada plus largement, et puis aussi tous ces pays du Nord. Mais je me trompe, parce qu'il y a aussi la Jamaïque. Alors, comment savoir?
Oui, il y a une Jamaïcaine. il y a pas mal de Néerlandais aussi, de langue flamande.
Oui.
Mais dès le début, parce que nous, quand on découvrait la poésie, ce qu'on voulait lire, c'était des poètes contemporains. Donc, c'était là où on prenait le plus de plaisir. Donc on était à l'affût de la moindre parution à l'époque. Quand on a commencé, ce qu'on voulait, c'était publier des auteurs quasiment de notre âge, quoi, enfin de jeunes auteurs. Et donc, au fil du temps, c'est toujours la poésie contemporaine qui nous a intéressés, ce qui s'écrit au jour le jour, quoi. Ça a toujours été notre volonté.
Et qui sont-ils, ces poètes, alors? Parce qu'à l'époque, c'était la Beat Generation. Il y a eu le manifeste électrique, le manifeste froid. Et puis après, le temps a passé. Des revues aussi, beaucoup vous ont connaître des poètes.
À l'époque, les revues étaient florissantes dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, la situation est un peu critique pour les revues, hélas. Mais ça circulait beaucoup par les revues et par les anthologies. Donc, on était à l'affût de toutes les anthologies, de toutes les revues. Et après, quand on avait un coup de cœur pour un auteur, on allait voir plus loin. Et voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je crois que c'est comme ça que ça doit fonctionner encore aujourd'hui. Pour un jeune lecteur de poésie, c'est le meilleur moyen, vu qu'aujourd'hui c'est un petit peu sinistré l'information poétique dans la presse écrite notamment.
Ce qui n'est pas le cas des livres même. On n'a jamais publié autant de poètes.
Je peux pas dire qu'on sent pas qu'il y a une perte de lectorat de poésie. C'est assez stable, en fait, depuis une vingtaine d'années. Les chiffres sont à peu près les mêmes. Donc il n'y a pas de perte de lectorat. On reçoit de plus en plus de manuscrits de poésie. Plus de 1000 manuscrits par an.
Sous papier craft, comme ça?
Oui. Oui, on en reçoit plus de 1000. Et encore, à 1000, comme on a deux adresses, je ne sais même pas combien on en reçoit à Bordeaux. Donc on en reçoit nettement plus de 1000.
Et comment ça se passe après? On décachette et qu'est-ce qu'on découvre et comment on fait le tri?
Hélas, il n'y a pas... peu de manuscrits qui donnent naissance à un livre, parce qu'on suit aussi des auteurs. Évidemment, quand on dure en tant qu'éditeur, on a des auteurs maison, donc on les suit, ce qui laisse de moins en moins de place, en fait, pour les découvertes. C'est ce qui est un petit peu cruel pour nous et pour les auteurs.
Sauf s'il y a une découverte fantastique, auquel cas vous la prenez.
Découverte. Donc là, il y a le plus récent, c'était Franck Nichel. C'était un manuscrit qui arrivait par la poste, avec un mot très simple, assez habile, mais très simple. Et là, j'ai eu un coup de foudre dès les premières pages. Et j'étais bluffé, en plus, par le système du livre, parce que c'est l'auteur fait comme s'il découvrait le manuscrit d'un auteur. Et il met ça en abîme, parce qu'après les poèmes, pour chaque poème, il explique les circonstances d'écriture du texte. Donc, ouais, je trouvais ça quand même très fort. Bon, lui, c'est un baroudeur, il a été grand reporter.
À tel point qu'on n'a pas pu l'attraper, ça rime à quoi?
Oui, parce que c'est quelqu'un, il est rarement en France, un jour il est à Goa, un jour il est à Majorque, enfin, c'est très dur. Moi, je l'ai rencontré 3-4 fois. c'est un globe-trotteur. Donc voilà, ça a été un coup de foudre immédiat. Le livre a été bien accueilli et il a même été sur deux listes de prix importantes. Il était dans les finalistes. Donc on doit publier son prochain livre.
Il y a aussi pas mal d'étonnement dans cette anthologie, ce qui est écrit change à chaque instant. Jean-Yves Rezeau, parmi les 101 poètes, tout d'un coup on voit débouler Mick Jagger, on voit aussi Janis Joplin. Alors là, on peut pas s'empêcher de repenser au Jean-Yves Rezeau, biographe de Jim Morrison.
Oui.
C'est par là que ça passe?
Ça passe par là, parce que moi j'ai toujours été très intéressé par la musique électrifiée, pour dire simple. Donc le rock, le blues, le jazz. Hein. Donc à peu près la moitié de la production du Castor Astral, ce sont des livres sur la musique. Hein. Donc il y a toute une logique là-dedans. Donc c'est pas étonnant que certains des poètes qui sont dans l'anthologie parlent eux-mêmes de musique et de musiciens. Par exemple, Zeno Bianu, qui a même écrit une série de livres consacrés à des livres de poésie, hein, consacrés à des musiciens, Jimi Hendrix, Chet Baker, Bob Dylan et Coltrane. Hein.
Et les tirages et les ventes derrière, ça représente quoi, Jean-Yves Rezeau? Le Castor Astral tire à combien? Un grand livre, un petit livre? Comment ça marche?
En poésie, on parle poésie.
Ça rime à quoi? C'est la poésie.
C'est la poésie.
Exclusivement.
Donc, en poésie, la moyenne, c'est 1000. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance parce qu'en fait, techniquement, c'est devenu très facile de réimprimer des livres. Hein. Donc,
ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de...
Non, ça n'a jamais vraiment valu le coup pour la poésie de prendre de gros risques sur les tirages, mais encore moins aujourd'hui. Je veux dire, c'est très facile de réimprimer des livres. Bon, sauf que le circuit du livre est quand même compliqué, donc il y a des histoires des mises en place, etc. Donc, refaire une mise en place sur des livres de poésie, les libraires ne sont pas toujours accueillants dans ces cas-là, quoi.
Par exemple, pour un livre tiré à 1000 exemplaires par le Castor Astral, la mise en place peut être de combien?
La mise moyenne aujourd'hui d'un livre de poésie, mais c'est pas que chez nous, hein, c'est chez tous les éditeurs, je dirais que la moyenne, c'est 300.
À l'apparition, 300 dans les librairies.
Il y en a 300 qui partent en librairie, quoi.
Et les libraires les gardent combien de temps avant les retours?
Ils les gardent plus longtemps que des romans, ou c'est ça qui est, bon, ça c'est l'intérêt de la poésie quand même, c'est que les libraires ont tendance à les garder plus longtemps. Bon, ça c'est quand même un acquis de la poésie. Donc, un livre de poésie, ça peut être très variable, mais en général, il reste souvent 6 mois, alors qu'un roman, il peut rester 3 mois, quoi. Hein.
Oui, donc, voire moins.
Mais la moyenne, c'est peut-être 3 mois pour un roman. En poésie, je dirais que c'est 6 mois, mais ça peut être très long. Je connais des libraires qui peuvent garder pendant 2 ans un livre de poésie parce qu'ils sont sûrs qu'un jour ou l'autre ils le vendront, ce qui n'est pas le cas pour un roman. Mais ils savent que, en choisissant bien les éditeurs et les auteurs, beaucoup de libraires me disent ça. De toute façon, je suis sûr qu'un jour je le vendrai, tôt ou tard. Donc ils gardent les livres en rayon. Quand ils ont un rayon poésie, bien sûr.
Et sur la visibilité aussi, parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que des livres que l'on va voir en pile, en vitrine, enfin, ou même sur la caisse, enfin, quelque part, est-ce que ça influe beaucoup? Est-ce que l'une des tares de la poésie, c'est très souvent d'être rangé sur la tranche en attente d'une demande?
Oui,
et de,
oui,
ne pas être, ouais, et de ne pas être sous les yeux et donc non, de ne pas tenter.
Il y a des libraires qui mettent parfois la poésie en pile et quand elle est visible et en pile, elle se vend, quoi. Il n'y a pas de fatalité pour la poésie, c'est pas destiné à des très faibles ventes. Hein. Quand on apporte la poésie vers des lecteurs, il y a des acheteurs, hein. On le voit bien, quand on fait des stands, on le voit bien.
D'où l'intérêt des marchés de la poésie, des lieux où vraiment les gens viennent pour cela.
Et à la limite, je trouve que, par exemple, dans les stands, on en vend plus qu'il y a peut-être 10-15 ans. Il y a une demande, quand même, hein, je trouve. Mais là, il faudrait que l'école, les critiques, les libraires, que tout le monde pousse dans le même sens en mettant les livres de poésie en avant, en en parlant. Et là, on les vendrait beaucoup plus.
Et les droits d'auteur pour un poète, c'est quoi le pourcentage?
De toute façon, pour tous les auteurs, c'est le même. Hein. On donne 10%, enfin, presque tous les éditeurs donnent 10%.
10, 12, 14, 10% jusqu'à 10 000, mais il faut faire plus de 10 000.
Oui, je crois qu'on n'a jamais donné 14 à un poète.
Même Transtromer?
Si, peut-être lui, mais c'est peut-être le seul.
France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nounou.
C'est comment un poète aujourd'hui?
Ça ne se voit pas, un poète, quand on le rencontre dans la vie. Le problème pour lui, c'est quand socialement, il doit dire qu'il est poète. Hein. Quand on dit ça dans un repas, tout d'un coup, ça jette un froid. Quand on dit « Ah bon, vous êtes poète ?» Tout d'un coup, là, il y a un grand blanc. Donc là, il y a un grand problème aujourd'hui de l'identité du poète dans la société. Hein. Ça, c'est assez dramatique, je trouve. Justement, On lutte beaucoup contre cet état de fait en créant des événements, des lectures publiques, en étant présent dans des salons, au marché de la poésie, etc. Et l'important, c'est de montrer aux gens que la lecture de la poésie, c'est pas quelque chose de fatalement compliqué. C'est souvent une rencontre passionnante. Et souvent, on arrive à entraîner dans des lectures publiques des gens qui ne lisent pas de poésie ou qui en ont lu il y a très longtemps, qui vont un petit peu à reculons, ils viennent parce qu'ils sont par des amis, etc. Et quand ils entendent des lectures, ils se disent « Ah ouais, c'est ça la littérature, la poésie contemporaine, ah oui, alors là c'est intéressant ». Et tout d'un coup, ils se mettent à lire de la poésie. Donc il faut provoquer ces rencontres.
Le marché de la poésie de Paris, qui va se tenir en fin de semaine prochaine, place Saint-Sulpice, toujours. C'est un lieu qui revient chaque année et un moment fort. On n'est pas à 40 ans encore, mais il vous talonne pas mal. Ici passe quoi?
Déjà, c'est en plein air. C'est place Saint-Sulpice à Paris. Donc déjà, il y a une ambiance très, très conviviale, très particulière. On dit qu'il y a 35 000 personnes qui passent. C'est des gens qui achètent beaucoup de livres, poésie ou autre d'ailleurs, mais essentiellement de poésie, évidemment. Et là, il se passe quelque chose d'assez miraculeux. Par exemple, on vend plus de livres au marché de la poésie qu'au Salon du Livre de Paris, quoi. Les gens, ils viennent pour acheter des livres, pour rencontrer des auteurs. Il se passe quelque chose d'assez magique et d'unique en France. Il y a pas d'équivalent ailleurs.
Et pour vous, la multiplication des lieux, des spectacles, aussi des mises en voix, enfin vous Jean-Yves Rezeau, vous avez toujours eu ce goût pour le texte pulsé, puisque votre amour du rock fait que les chanteurs ne sont jamais bien loin, surtout s'ils ont une vie aventureuse qui touche pas mal à la poésie. Mais tous ces récitals, tous ces spectacles, et il y en a également au marché de la poésie, sont vraiment une entrée fabuleuse de nos jours, parce que ça parle.
Oui, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec des musiciens, surtout de jazz, mais éventuellement de rock ou même de chansons françaises, tout simplement. Bon, alors évidemment, il y en a qui sont contre, hein, ils disent « Ah non, il faut pas mélanger la musique et la poésie doit rester... »
De moins en moins, non. Dans les 101 poètes que vous publiez là dans l'anthologie, la plupart font des récitals et des lectures publiques très régulièrement.
Il y a quelques... Enfin, j'entends ça de temps en temps, j'entends ça.
Ce ne sont pas vos auteurs au Castor Astral.
Il peut y en avoir.
Il y a du classique aussi.
Il peut y en avoir qui sont un peu gênés que la musique participe à la poésie. C'est bon, il y a une grande différence entre poésie et chanson. Il n'est pas du tout question de faire de la chanson, mais travailler avec des musiciens de jazz sans qu'ils encombrent le texte de poésie. Il y a des façons intelligentes d'accompagner des poèmes, soit avant la lecture, soit pendant avec des petites interventions. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit au détriment du texte, c'est évident. Mais souvent, les poètes ont un grand plaisir à travailler avec des musiciens quand ça débouche sur une véritable complicité. Et des fois, il y a des réussites vraiment formidables.
Et cette ouverture qui était d'emblée dans votre idée de fonder une maison d'édition il y a 40 ans et qui perdure aujourd'hui, fait que l'espace poétique, selon vous, s'est décuplé? Est-ce que le fait de publier des gens de plus en plus différents a fait que l'écriture ne cesse d'évoluer, de changer? Enfin, votre regard à vous, Jean-Yves Rezeau, sur le panorama poétique, puisque là, il est même mondial. Mmh. Est-ce que sur ces 40 années, vous avez la sensation que ça a swingé pas mal?
Les voix sont plus multiples aujourd'hui. Avant, il y avait quelques écoles qui s'affrontaient un petit peu. Bon, il y avait toujours eu cette lutte entre le lyrique et formaliste, qu'on peut mettre d'autres noms là-dessus, bon, qui existe toujours aujourd'hui. Mais la poésie, c'est à la fois le fond et la forme. Ça ne peut pas être que la forme, ça ne peut pas être que le fond. Donc justement, la réussite d'un poète, c'est de trouver l'alliance entre le fond et la forme. C'est ça qui fait qu'on est un grand poète. Oui, il y a des évolutions. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu surpris évidemment, on aimerait qu'il y ait des jeunes générations qui apportent de nouvelles voix. Donc là, à ce niveau-là, on est un petit peu inquiet, peut-être, parce que les jeunes poètes avant bousculaient les anciens. Et là, c'est pas tellement le cas. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. On attend des grandes voix nouvelles, quoi. Et ça, on a un petit peu de mal. Et malgré les centaines de manuscrits qu'on reçoit par an, on a du mal à trouver de nouvelles voix. Il y en a, mais c'est quand même assez peu. J'ai l'impression que c'était plus riche, plus tôt, il y a dans les années 70, 80, 90, qu'aujourd'hui. Il y a des poètes qui étaient beaucoup plus mûrs plus tôt, ce qui est assez étonnant. Alors qu'il y a multiplication de l'information, tout circule plus vite aujourd'hui, et j'ai pas l'impression que ce soit au bénéfice de la création poétique.
sur cette affiche-là des 40 ans, Jean-Yves Rezeau, qui est assez, assez peuplé en fait. Mmh. Il y a comme toujours un choix de titre à faire, de couverture, plus ou moins à succès ou pas, récente ou pas. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, qui vous fait le plus plaisir là? Parce que quand même, c'est un anniversaire.
Ouais, ah, ouais, c'est compliqué. C'est évident que c'est le prix Nobel de littérature qui nous a fait le plus plaisir. Pas tellement parce que c'est le, on a eu la chance de publier un auteur qui, du prix Nobel, mais c'est surtout parce que c'est un poète. Et en fait, que la récompense arrive par la poésie, je trouve ça formidable, quoi. C'est ça qui nous a vraiment rendu fiers, quoi. Si ça avait été un romancier, bon, on aurait été très contents, bien sûr, mais ça aurait pas été pareil. Et le grand plaisir, c'était que ça arrive par la poésie. Et ça, c'est la fierté, elle est là, en fait.
Et ensuite, dans cette manière aussi d'accompagner la poésie contemporaine, parce qu'il n'y a pas tellement d'éditeurs de votre envergure quand même, qui soient toujours là pour être fidèles à des poètes qu'ils ont publiés. C'est assez fort,
oui,
ce compagnonnage.
Bah, oui,
c'est une responsabilité aussi.
Oui, c'est une responsabilité, mais c'est une grande satisfaction aussi de suivre un auteur, de le voir évoluer de livre en livre. C'est un compagnonnage. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est travailler avec les poètes et les voir évoluer et puis les défendre au fil des années, des décennies pour certains.
Au risque de les voir passer dans une catégorie comme au football ailleurs, chez un plus gros éditeur?
Oui, mais hélas, comme les grands éditeurs publient de moins en moins de poésie, enfin, à part les 3 ou 4 qu'on connaît, c'est quand même assez rare qu'il y ait un transfert chez les grands éditeurs. C'est quand même... c'était plus fréquent, je pense, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Les grands éditeurs sont parfois très contents de nous laisser les poètes importants.
Et sur ces 101 poètes choisis, donc sélection évidemment cruelle parmi tous ceux que vous avez publiés, parce qu'il y en a plus, Jean-Yves Rezeau. Là, le choix a été alphabétique, parce qu'il faut bien trouver une façon de les donner à lire. Mais vous, dans les interstices du temps et dans cette aventure qui a commencé il y a 40 ans, les plus belles rencontres, quelles sont-elles?
Je dirais Jean-Claude Pirotte, parce qu'il est décédé l'année dernière, parce que c'était quelqu'un qui vivait 200% pour la poésie. C'était quelqu'un des... Enfin, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il passait beaucoup de temps à défendre la poésie des autres. Et ça, c'est quand même assez rare. Rien que pour ça, je l'admire. Mais surtout, c'était un très, très grand poète.
Et avec un style très, très, très spécifique, très particulier.
Spécifique, ouais, oui.
À la fois ancré sur des formes anciennes,
ouais,
et
ouais.
Avec des sonorités
d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est à la fois très moderne, mais très marqué par une poésie plus classique. Donc, il écrivait même assez souvent en rime, quoi. Ce qui est rarissime aujourd'hui, et en général ça suffit à rejeter un poète aujourd'hui, alors que lui, il arrivait à rendre ça passionnant. Il le faisait avec un sens de la métrique, du rythme, et puis de l'humour aussi, qui était extraordinaire. Quoi.
Jean-Claude Pirotte.
Ouais. Et sinon, les autres, oui, c'est difficile de les citer. Les grandes rencontres, c'est par exemple Seymous Daktekin, qui est un poète kurde qui vit en France. Il a commencé à écrire en français à l'âge de 22 ans. Il a eu le prix Mallarmé, et c'est un de nos poètes les plus remarqués, qui a vraiment, vraiment un lectorat. Sinon, les plus marquants, il y a Daniel Biga par exemple, Franck Venaille qu'on lisait quand on était étudiant à l'époque, qui publiait ses premiers livres.
Et que vous accueillez aujourd'hui.
Et qu'on accueille aujourd'hui, qui a été très important pour nous. Il y a peut-être moins connu, et je trouve ça très très injuste. Par exemple, Daniel Fano, qui a eu, à mon sens, une très très grande influence sur beaucoup de poètes francophones. Pareil pour Claude Pellieu. On dit que c'était le seul poète français de la Beat Generation, parce qu'il vivait aux États-Unis, il était proche de Ginsberg, tout ça. Et lui aussi, là, il a eu une importance considérable, je trouve, dans la poésie. On le dit pas assez, mais à l'époque, il était quand même en livre de poche, hein, dans les années 70-80, et on était nombreux à être marqués par ses textes. Hein. Bon, puis il y a des poètes étrangers comme Richard Brautigan, hein, qui pour nous est très très important. D'ailleurs, on va publier, je crois que je peux le dire maintenant, c'est quasiment signé le contrat, on va publier ses œuvres complètes en poésie, ce qui ça fait longtemps qu'on espère ça. Ce sera bilingue en plus. Donc au moins en 3 tomes, je pense, hein, parce que ça sera très très gros. Qui est un poète, lui aussi, qui était un poète de la Beat Generation, hein, qui s'est suicidé dans les années 80, et qui est romancier. On trouve ses romans chez Christian Bourgois et ailleurs. Voilà, comment citer d'autres oui, il y a Zenobia Nu, il y a Marie-Claire Bancard, il y a Ariane Dreyfus.
Qui est sûrement la plus jeune ?
Qui doit être la plus jeune.
Ça veut dire la quarantaine.
Oui.
En poésie.
Oui, 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 en poésie, oui. Oui.
Publié de nos jours.
Oui. Bon, sinon, il y a des Québécois, hein. Il y a beaucoup de Québécois.
Et aujourd'hui, la poésie québécoise, Jean-Yves Rezeau, que vous aviez prise de plein fouet comme ça en arrivant dans, il y a 40 ans comme un endroit immensément ouvert et prolixe, comment est-elle ?
Ils ont quand même, la poésie a quand même un peu souffert là-bas. On la trouvera moins en vitrine aujourd'hui que dans les années 70, hein, c'est évident. Ouais, elle est un petit peu en recul au niveau de la, pas de l'écriture, mais de la présence dans la société. Quoique les poètes québécois sont quand même très actifs. Ils font aussi des festivals. Ils sont assez actifs sur les radios. Il y a quelques maisons d'édition entièrement consacrées à la poésie au Québec qui sont dynamiques. Hein, donc il se passe quand même encore beaucoup de choses dans la poésie québécoise. Hein.
Et le choix là pour ces 101 poètes, dans ce qui est écrit change à chaque instant justement, est-ce que c'était de donner à lire à chaque fois, il y a 2, 3, 4 pages, des choses très différentes, ou au contraire de garder une harmonie pour entendre une voix ?
On a quand même été vers la variété pour montrer qu'on n'est pas un éditeur sectaire déjà. Évidemment, il y a une ligne, on sent bien les auteurs qui peuvent être chez nous et ceux qui ne peuvent pas être chez nous. Mais quand même, il y a de grandes différences entre certains de nos poètes. Hein. Moi, je peux aimer des poètes qui a priori, sont très éloignés l'un de l'autre. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis pas du tout un sectaire, comme certains peuvent l'être.
Et cette image en couverture ? Cette peinture
C'est une toile de Gérard Guillaumard, qui est un peintre de la nouvelle figuration, de la figuration libre. C'est un peintre qui a été très... Enfin, il est toujours très actif. Il expose en ce moment juste à côté de Beaubourg. C'est un peu le type de peinture qui nous a accompagnés dès le début, quoi. Voilà. Donc, on est resté fidèle un peu à cette peinture. Et lui, là, il a fait plusieurs couvertures pour nous, dont Poésie du monde francophone, hein, qu'on avait coédité avec Le Monde dans les années 80, je crois. Donc il est toujours là quand il y a la poésie.
Ça aussi, les couvertures du Castor Astral sont souvent très variées et très voyantes aussi. Il y a des choses beaucoup plus sobres, mais vous n'hésitez pas, Jean-Yves Rezeau, à faire des couvertures que l'on repère de loin.
Oui, le travail avec les peintres et les graphistes en général, oui, ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'on fabrique nos livres jusqu'au stade ultime, quoi, jusqu'au moment où on donne les fichiers. Hein, on a un atelier de photocompo et de photogravure, donc l'objet livre est très important pour nous. Plus on va aller vers le livre électronique, je pense que plus il faudra faire de beaux livres. Donc c'est un peu comme dans le disque, comme il y a la disparition des CD, maintenant on fait des éditions un peu luxe, en rajoutant des choses, etc. Et je crois que l'avenir du livre, c'est le beau livre, sans tomber dans le livre cher, du tout, au contraire. Il faut rester à des prix très, très abordables, mais en faisant des livres très attrayants.
C'est quoi la marque de fabrique d'un livre du Castor Astral ? Si on enlève le titre, le nom de l'éditeur et derrière le code barre, à quoi vous allez le reconnaître, vous, Jean-Yves Rezeau ?
J'espère qu'on le reconnaît à la mise en page, au choix de la typo. J'espère que visuellement, on reconnaît nos livres aussi. J'espère.
Venez fêter les 40 ans du Castor Astral de Jean-Yves Rezeau et Marc Toralba au Marché de la Poésie de Paris en fin de semaine prochaine, place Saint-Sulpice. Ce qui est écrit change à chaque instant, cette anthologie y sera. Sari Makwa, 24 heures sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Sari Makwa, Philippe Palares, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.